du rôle du privé dans le développement et le financement du développement, on a un chercheur qui travaille précisément, ses recherches portent là-dessus, Gabriel Goyette. Gabriel est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques et d'une maîtrise en sciences politiques spécialisée en relations internationales et développement de l'Université du Québec à Montréal, ici. Et Gabriel est présentement candidat au doctorat à l'Université de Montréal au département de sciences politiques. Ses recherches portent sur les transformations contemporaines de l'aide publique au développement, l'efficacité de l'aide et en particulier le rôle du secteur privé dans l'aide canadienne. Il travaille également sur la responsabilité sociale des entreprises. Gabriel est le coordinateur du pôle coopération du réseau d'études des dynamiques transnationales et d'action collective à l'UDM. Il est le coordinateur des activités au Centre d'études de l'Asie de l'Est, le CETAS, et au pôle de recherche sur l'Inde et l'Asie du Sud. Je me demande des fois comment il fait ses recherches. Il est également doctorant au CERIUM, à l'Université de Montréal. Gabriel est membre associé du CIRDIS et chercheur associé de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, ici à l'École des sciences de la gestion, UQAM. Enfin, il est le correspondant pour le Canada de la revue Technique financière et développement. Et il vient de sortir un chapitre dans un livre qui sera disponible au Québec en avril, Transformation des politiques de coopération Canada et France, et ça porte sur les secteurs agricoles et miniers. Et c'est Gabriel qui a fait le chapitre un peu théorique là-dessus. Un plaisir de t'entendre, Gabriel.
Merci beaucoup, Benny, pour ces bons mots.
Mais je tiens à préciser que j'ai écrit ou co-écrit 3 chapitres. C'est pas avec le temps libre qui me reste entre toute cette coordination-là. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici cet après-midi, ce soir en fait. Merci à mes collègues pour leur présentation avant, ça va me permettre de libérer beaucoup de temps pour ma propre présentation. Ce que j'essaie de faire ici, c'est vraiment de voir, essayer de pousser un peu plus loin la logique qui est sous-jacente à cette idée selon laquelle c'est le secteur privé qui devrait financer les objectifs pour les ODD. Fraser a bien exprimé dans sa présentation l'ambition des ODD, à la fois en termes d'étendue et de portée. Puis après ça, à la fois Stephen et Denise nous ont montré comment finalement les ressources publiques ne seraient peut-être pas nécessairement au rendez-vous pour répondre à ces problèmes-là. Et bien souvent, c'est le préambule que font beaucoup des documents de présentation des ODD. Et après ça, on nous arrive avec la solution, mais la solution, elle est simple, c'est que c'est le secteur privé qui va financer le reste. Puis récemment, par exemple, dans une conférence à Genève qui visait à aborder cette question-là avec des dirigeants d'entreprise, un des représentants du PNUD a commencé son introduction en disant « Ben, si on prend l'ensemble de l'aide publique au développement, puis qu'on met ça en parallèle avec les ressources qui vont être nécessaires pour atteindre hein, les fameux 2 à 7 trillions de dollars qui vont être nécessaires pour atteindre ces objectifs-là, ben en fait, l'aide publique au développement de tous les pays du cadre, ça représente environ 2 % des sommes annuelles qui vont être nécessaires. Donc, même si on faisait une lutte acharnée aux paradis fiscaux, qu'on prenait cet argent-là et que, contre tout sens commun, parce que ce n'est pas vraiment ça qui se passe normalement dans nos pays, on envoyait cet argent-là pour tous atteindre le 0,7 % du PIB. Et en ce moment, on parle de 2 % des sommes nécessaires. Je ne nous vois pas atteindre même 10 % des sommes nécessaires. Et donc, très clairement, pour réaliser ce que l'ONU appelle en ce moment le « scaling from billion to trillion », donc le passage des milliards aux trilliards, en fait. Clairement, il va falloir trouver des manières de mobiliser des ressources. Et la solution qui nous est souvent présentée, c'est de mobiliser des ressources privées. Donc, ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de voir bien, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça. Quel défi est-ce que ça propose? Quel risque est-ce que ça peut soulever? Ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte actuel, on nous présente vraiment beaucoup le secteur privé comme une solution un peu magique pour faire la quadrature du cercle entre ressources et objectifs. On aime beaucoup ça d'ailleurs dans le développement international, les secrets miracles ou les solutions miracles, que ce soit l'ajustement structurel, que ce soit la bonne gouvernance à travers les âges. On a toujours cherché hein, cette silver bullet qui allait régler tous les problèmes, comme si ça pouvait exister une telle chose. En ce moment, ça a l'air que c'est le secteur privé, donc allons-y. Parfois, c'est la responsabilité sociale des entreprises qui doit servir de levier pour essayer de réconcilier les logiques d'action privée avec les logiques d'action publique ou les objectifs comme les ODD. Mais dans le cas présent, on va bien au-delà de ça, parce que quand on regarde les sommes qui sont nécessaires, très clairement ici, quand on parle de la contribution du secteur privé, on n'est pas en train de parler de philanthropie, on n'est pas en train de parler de responsabilité sociale des entreprises, de décaissement qui serait à la marge, si on veut, de la fonction des entreprises. On parle ici de faire en sorte que les investissements privés des entreprises soient non seulement porteurs de croissance du bénéfice net pour les actionnaires, mais deviennent aussi porteurs de croissance au service du développement durable. Et ça, ça représente tout un défi. Parce que ça veut dire qu'il va falloir augmenter de manière significative la croissance privée, tout en réduisant l'empreinte écologique, avec deux mouvements parallèles, un paradoxe d'ailleurs que Stephen a bien soulevé. Le premier, c'est donc de trouver une manière d'accélérer de manière très importante la croissance, mais pas n'importe quelle croissance, une croissance de plus grande qualité que celle qu'on a déjà de la difficulté à livrer aujourd'hui. Une croissance plus inclusive, une croissance plus durable. Mais le phénomène qui doit aller en parallèle à ça, et qui doit être encore plus rapide en fait, c'est une réduction encore plus marquée en matière d'intensité de l'empreinte écologique et sociale de la croissance. Parce que si vous avez une croissance plus importante et que vous avez une réduction de l'empreinte de cette croissance-là qui est uniquement équivalente au taux de croissance, bien, on n'a pas de réduction de l'empreinte écologique. Puis si la réduction de l'intensité est plus faible que le taux de croissance, j'ai l'impression que je suis en train de donner un cours de mathématiques, mais vous voyez très rapidement comment il faut que cette intensité-là diminue encore plus vite que la croissance. Et ça, franchement, ce n'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de dépasser un peu ce défi-là? Le premier, ça va être celui de l'engagement des entreprises. Et puis là, ici, on s'entend, là, je suis dans un mode. Ce que je vous présente ici, c'est le best case scenario. Qu'est-ce qu'il faudrait réaliser pour que tout ça fonctionne? Puis après ça, on tirera les conclusions dans les périodes de discussion, si vous voulez, sur est-ce que c'est susceptible d'arriver? Quels pourraient être les impacts potentiels d'un échec des ODD? Est-ce que ça aurait un effet de démobilisation? Est-ce que l'ambition était finalement une erreur? Ou est-ce qu'au contraire, parce qu'on doit essayer de mobiliser tellement d'acteurs pour atteindre des objectifs tellement importants puis changer les pratiques de manière tellement profonde, qu'avoir des objectifs ambitieux était la seule manière de procéder dans un sens? Je pense que, un peu comme Stéphane l'expliquait dans sa présentation, ça, c'est des questions qui sont ouvertes à ce moment-ci. On n'a pas assez de recul par rapport au processus actuel. Puis on ne sait pas non plus comment les acteurs vont se saisir de ces objectifs-là, parce que les objectifs, les ODD, sont des objectifs. Il n'y a pas encore véritablement de moyens à proprement parler qui sont mis de l'avant pour nous permettre de les atteindre. Et donc, comment on va faire pour faire en sorte que les entreprises privées deviennent des partenaires dans la réalisation des ODD plutôt que de les miner? Comment on va faire pour convaincre les entreprises de contribuer non seulement au financement, mais comme je l'expliquais, ça va bien au-delà de ça, de transformer elles-mêmes leurs pratiques pour, dans leurs actions courantes, dans la gestion de leurs ressources humaines, dans leur gestion de leur chaîne d'approvisionnement et de distribution, dans l'ensemble des stratégies et des actions des firmes, être capable de contribuer de manière effective à l'ensemble d'une série d'objectifs qui, comme les interlocuteurs précédents l'ont bien expliqué, sont interreliés, sont tout à fait holistes. Dans certains cas, il y a des facteurs où le lien est plus direct. On pense par exemple à l'objectif 8 sur le travail décent ou l'objectif 12 sur la consommation et la production responsable qui interpellent directement les stratégies d'action des firmes. Mais il y a un paquet d'autres facteurs qui ne se régleront pas tant qu'ils n'auront pas été intégrés aussi dans l'ensemble dans la stratégie et dans la mise en œuvre des firmes. On pense par exemple à la question de l'égalité des sexes ou par exemple l'objectif 16 sur la qualité des institutions qui a là-dedans un indicateur de corruption. Mais la corruption, généralement, elle vient de quelque part, puis c'est pas rare que la main qui corrompt vient du secteur privé. Et donc, si les ODD représentent une approche holiste, il va falloir que l'action des firmes le soit aussi. Mais ça, ça veut dire de changer de manière vraiment radicale la manière dont les entreprises pensent, agissent, et en fait, ce à quoi on nous appelle avec les ODD, si on va jusqu'au bout de la logique, c'est de repenser de manière radicale le fonctionnement de l'économie de marché. Et puis, c'est un objectif qui est louable. Il y a fort à parier que si on veut mener à une croissance plus soutenable pour la planète et plus égalitaire, il n'y a pas de doute qu'il va falloir repenser le système de production dans lequel on est, mais je suis un peu sceptique quant à la capacité des gouvernements d'emmener cette prise de conscience-là chez les entreprises. Le deuxième défi, ça va être d'orienter l'action des fermes. Comment faire en sorte que l'appropriation qui est censée être remise au cœur des ODD va se transmettre après ça, au-delà de l'action même des coopérations, dont on sait qu'elle est, c'est un enjeu pourtant complexe. Comment ça va rentrer après ça dans la stratégie des firmes? Comment est-ce que les investissements privés des firmes qui doivent générer du développement durable vont être faits pour atteindre les objectifs du développement, alors que ce n'est pas l'objectif des entreprises? En fait, les gestionnaires vous diront que leur seule obligation légale, au-delà de respecter la loi, c'est de maximiser l'avoir de leurs actionnaires. Puis ça, ce n'est pas une obligation théorique, c'est une obligation légale. Et aussi, c'est ce qui fait en sorte que le conseil d'administration va te garder à ta job ou que tu vas aller pointer au chômage avec un parachute doré la plupart du temps, mais quand même. Là. Et donc, cet enjeu-là de comment est-ce qu'on va orienter l'action des firmes au niveau substantif en matière de développement, pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas une évidence. Ensuite de ça, il y a la question au niveau de l'orientation géographique. Je suis tout à fait d'accord que le fait que les ODD s'appliquent au Nord est une avancée significative. Ça contribue un peu à limiter un des problèmes dont je me souviens qu'on parle depuis mes cours de bac, qui, dans le régime de l'aide internationale, qui est celui de l'asymétrie de pouvoir. Hein? Et cette idée que, finalement, il y a des choses à faire chez nous aussi, ce qui, by the way, devrait être une évidence pour tout Canadien qui a déjà regardé les nouvelles et qui a vu ce qui se passait dans les communautés autochtones. On n'a pas besoin des ODD pour nous faire dire qu'on a des problèmes de développement dans nos propres pays. Mais non, au-delà de ça, comment faire en sorte que, si maintenant c'est ouvert pour contribuer au développement de la part des entreprises, de contribuer ici, bien, qu'est-ce qui va encourager les entreprises à aller investir loin de leur marché, loin de leur clientèle, loin de là où ces investissements-là ont le plus gros impact en termes de développement de la marque pour les entreprises. Parce qu'encore une fois, l'idée ici n'est pas de dire « Ah, les entreprises devraient être gentilles et complètement modifier leur manière de faire pour atteindre les ODD. » Ça ne se produira pas, ça. C'est quoi le business case qu'on va être capable de faire pour ces entreprises-là pour essayer de les emmener à progresser vers des formes de gestion qui seraient plus durables, plus inclusives? Pour moi, ça, c'est un défi assez important. Le troisième qui va émerger, et il va émerger assez rapidement, ça va être la gestion des antagonismes de manière constructive. Disons que le meilleur scénario s'est produit, que les gens cyniques comme moi ont eu tort et que les entreprises contribuent de manière significative à la réalisation des ODD. Quand il va commencer à y avoir des problèmes, comment est-ce qu'on va gérer ces antagonismes-là? L'objectif 12.2, par exemple, se lit ainsi. D'ici 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Je suspecte que BP et que Barrick Gold ont une interprétation différente de ce qu'est une utilisation rationnelle des ressources naturelles que celle que nous, on peut avoir. Comment on va faire quand ces problèmes-là vont commencer à émerger pour être capable de les régler tout en ne s'aliénant pas des entreprises dont, on s'entend, là, si on est capable de les rentrer dans le train, ça va déjà avoir été un miracle. Pour moi, ça va être un défi assez important, puis en fait, ça ne va pas être un défi assez important. On va sacrifier vraisemblablement de manière systématique les objectifs de développement pour garder les parties prenantes autour de la table. Mais encore une fois, ça pose des enjeux très effectifs en matière de réalisation des enjeux. C'est le fun d'entendre notre premier ministre dire qu'il n'y a pas d'opposition entre le développement des sables bitumineux et une économie plus verte au Canada. Puis, j'aimerais ça que ce soit vrai, mais dans la réalité empirique des choses, il y a des arbitrages qui doivent être faits. Quand ces arbitrages-là vont avoir lieu, qu'est-ce qui va prendre le pas? Qu'est-ce qui va être laissé de côté? Puis quelles vont être les conséquences de ça après ça sur la mobilisation des parties prenantes pour continuer et pour atteindre les objectifs extrêmement ambitieux en 15 ans seulement? Je dois plus avoir de temps. Je vais parler plus rapidement pour le dernier. Le dernier défi pour moi, c'est vraiment la question de l'imputabilité. C'est un thème sur lequel je me questionne souvent beaucoup. Puis quand j'ai commencé à lire les documents sur les ODD, j'ai pas vu le terme apparaître. Fait que là, je l'ai cherché un petit peu, j'ai cherché les variations, j'ai essayé responsibility. C'est un terme qui n'apparaît pas dans le rapport. La notion de responsabilité apparaît à quelques occasions, mais les responsabilités sont toujours les responsabilités des États. Il n'y a jamais question des responsabilités de qui que ce soit d'autre dans ce document-là. Ça va être un enjeu vraiment important, cette question-là, de l'imputabilité, notamment au niveau de la transparence des transferts fiscaux puis des paiements qui sont effectivement faits par les différentes entreprises. Mais pour moi, le défi qui demeure le plus important, puis je pense que c'est assez clair dans ce que je vous dis depuis le début, c'est comment est-ce qu'on va faire pour mobiliser les entreprises privées? Ça va être quoi notre prise pour les encourager à embarquer dans ce processus-là? Pourquoi est-ce qu'elles le feraient? Cette mobilisation-là, elle doit nécessairement passer par un support financier des entreprises aux objectifs, mais il va falloir qu'elle s'incarne après ça dans l'ensemble des pratiques d'investissement, de gestion et d'exploitation des entreprises. Et ça, ça va être assez complexe à faire. Ça va nécessiter une volonté importante et des actions concrètes de la part des États, mais aussi de la part des actionnaires. Et là, c'est peut-être ici qu'on va pouvoir commencer à avoir un certain nombre de prises. Il y a peut-être des petits pas qui peuvent être faits. Peut-être que, par exemple, justement, on peut commencer avec des investisseurs institutionnels pour lesquels les mécanismes d'imputabilité sont plus clairs. Peut-être que ça va passer par des entreprises d'économie sociale ou des coopératives. Quand on parle de secteur privé, on a souvent tendance à penser aux grandes banques, aux grands secteurs industriels. Mais en fait, le secteur privé, ce n'est pas juste des compagnies privées, ce n'est pas juste... Je ne veux pas prendre Barrick Gold, je veux pas avoir l'impression de casser du sucre sur eux. Ce n'est pas juste Bombardier, c'est aussi Desjardins, par exemple. Et donc, peut-être qu'il y aura là, oui, une prise pour essayer de partir la machine, partir la pompe, puis générer un mouvement qui, dans lequel les autres entreprises pourront s'implanter si elles voient, pourront s'insérer si elles voient qu'effectivement ça fonctionne. Cela dit, ce n'est pas fait, ça. Et non seulement c'est pas fait, mais en plus de ça, il y a un certain nombre de défis et de risques assez importants. Il y en a trois, puis je vais les mentionner très rapidement. Le premier, c'est l'évolution de la conjoncture. Actuellement, l'évolution de la conjoncture, on pense par exemple aux défis auxquels fait face l'Union européenne, bien, ça fait en sorte que les pays de l'Union européenne, qui sont quand même les premiers bailleurs d'aide publique au développement, leur attention est plutôt tournée vers l'intérieur en ce moment et sur des problèmes existentiels pour l'Union entre le Brexit et les enjeux de productivité à l'échelle du continent. Il y a une espèce d'effet de se retourner vers son nombril. Quand on regarde un peu la campagne électorale aux États-Unis, je comprends qu'on est encore dans les primaires, mais à la fois du côté démocrate et du côté républicain, on voit un retour vers l'isolationnisme qui est très marqué. On aime tous les beaux discours progressistes de Bernie Sanders, mais si vous êtes dans un pays en voie de développement, vous êtes aussi bien que ce ne soit pas lui qui soit élu. Et donc, il y a des enjeux importants au niveau de la conjoncture politique. Il y a des enjeux importants aussi au niveau de la conjoncture économique. Le prix des matières premières est basse en ce moment. Actuellement, ce qu'on est en train de dire avec les ODD, c'est les entreprises, vous allez devoir faire des efforts significatifs pour contribuer au développement et vous allez le faire dans un contexte où il y a une forte instabilité politique sur vos principaux marchés et où le prix des ressources naturelles est déprimé. Et donc, on est à peu près dans le pire contexte pour dire à des entreprises, prenez un risque en ce moment. Ensuite de ça, il y a également les risques plus de nature politique, hein? Cette question de l'ouverture à l'autre, la crise migratoire en Europe est en train de faire ressortir pas nécessairement les plus beaux côtés. C'est un peu la même chose dans la campagne électorale actuellement aux États-Unis. Vers quoi on s'en va de ce côté-là? Bien, les questions sont ouvertes. Puis est-ce que donc, face à des incertitudes comme celle-là, on est dans le climat le plus propice pour essayer d'intégrer des entreprises puis les emmener à se réinventer puis à réinventer le système dans lequel elles émergent? Pour moi, ce n'est pas évident. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'on a beaucoup de pain sur la planche pour y arriver. Merci.